VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir, dans un instant, le programme Sahel Plus, mais tout d'abord, un bulletin d'information. Au Nigeria, l'armée affirme avoir repris ce vendredi Gwoza, dans le nord-est du pays. Souvenez-vous, c'est dans cette ville que le groupe islamiste Boko Haram avait proclamé l'instauration de son califat en 2014. D'autres précisions avec Jacques Aristide.
Une annonce qui intervient à la veille des élections présidentielles et législatives au Nigeria et qui revêt d'autant plus d'importance, comme l'a fait ressortir le ministère de la Défense à Abuja sur son compte Twitter. Il écrit
« L'armée a repris Gwoza ce vendredi matin, détruisant le quartier général du soi-disant califat des terroristes. Plusieurs terroristes sont morts et nombre d'entre eux capturés. Nettoyage complet de Gwoza et de sa banlieue en cours. »
Pour sa part, le porte-parole de l'armée nigériane, Chris Olukolade, a révélé que des cadavres ont été découverts dans un puits. Un homme, enrôlé de force dans les rangs de Boko Haram, a déclaré que le chef du groupe, Aboubakar Shekau, a lui-même ordonné l'exécution des femmes de Gwoza et un fermier a corroboré cette version des faits, comme le rapporte l'AFP. Après avoir été chassé d'un certain nombre de localités ces dernières semaines par l'armée nigériane et ses alliés des pays voisins, Boko Haram se serait mis en ordre de bataille pour défendre son fief.
Et c'est dans ce contexte de violence que le président tchadien se plaint du peu de coopération d'Abuja face aux djihadistes. Idriss Déby, dans une interview avec l'hebdomadaire français Le Point, affirme que l'armée tchadienne déployée au Nigeria pour lutter contre la milice Boko Haram mène seule ses combats à l'intérieur du pays. Tout le monde se demande pourquoi l'armée nigériane, qui était une très grande armée, qui a résolu des crises en Afrique, n'est pas en mesure de faire face à des gamins non formés, armés de Kalachnikov, a ajouté M. Déby. République centrafricaine, le Haut Commissariat aux réfugiés condamne fermement l'enlèvement de réfugiés congolais par les rebelles de la LRA. Les réfugiés congolais ont été enlevés par la milice près de la frontière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Les faits se sont déroulés le 21 mars, poursuit le HCR. Mais voilà, la LRA retient toujours 3 personnes. 2 femmes et 11 hommes ont pu quand même regagner le camp de réfugiés de Zemio pour donner l'alerte. Céline Schmitt est porte-parole du HCR à Kinshasa.
Il s'agissait de réfugiés congolais qui étaient réfugiés en Centrafrique et qui étaient revenus en RDC pour voir leur champ. Ils ont été enlevés du côté de la RDC. 13 d'entre eux, 2 femmes et 11 hommes, ont été relâchés 2 jours après et sont retournés à pied jusqu'au camp de Zemio où ils vivaient. 2 victimes sont encore retenues par la LRA. Mais nous savons également qu'il y a une augmentation de l'activisme de la LRA dans la zone. Il y a eu 25 enlèvements dans cette zone-là au mois de février dernier. Et depuis 2014, nous avons constaté une augmentation des attaques et des kidnappings de la LRA dans la zone. Donc il y a eu une nette augmentation en 2014 des enlèvements par rapport à la situation de 2013.
Céline Schmitt, porte-parole du HCR à Kinshasa. Une nouvelle attaque a été imputée au Shebab somalien ce vendredi à Mogadiscio. Un grand hôtel de la capitale somalienne était visé et ont signalé plusieurs blessés. Le point avec Nicolas Pinault.
Scénario habituel, c'est un établissement fréquenté par les parlementaires somaliens qui a été visé ce vendredi près du carrefour très fréquenté du kilomètre 4. Une voiture piégée a explosé aux abords de l'hôtel Maka al-Mukarama en plein centre de Mogadiscio. Puis des assaillants ont ouvert le feu et réussi à pénétrer dans l'hôtel, comme l'a expliqué à VOA Afrique Gourey Haji Hassan, l'un des propriétaires de l'hôtel. Il explique qu'il y a sans doute des victimes puisque les djihadistes se sont réfugiés dans l'hôtel. Cet établissement, situé au cœur de la capitale somalienne, a déjà été la cible de 3 attaques similaires dans le passé. Les propriétaires ont toujours refusé d'ériger des barricades pour empêcher tout véhicule piégé d'approcher le bâtiment. Aucune revendication pour le moment, mais les Shababs sont soupçonnés d'être à l'origine de cette attaque. Défait militairement par la force de l'Union africaine depuis août 2011, les djihadistes multiplient les actions de guérilla, notamment à Mogadiscio, où ils visent régulièrement des sites officiels.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Avec vous, Camille Grosdidier, au Maroc, trois ressortissants français ont été condamnés à 4 mois de prison ferme dans des affaires de terrorisme avant d'être expulsés vendredi matin du pays. Jean-Roger Bion.
Le principal accusé a été condamné par un tribunal de Salé, près de Rabat, à 2 ans de prison, dont 4 mois fermes pour constitution de bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif. 2 autres ressortissants français ont été reconnus coupables de non-dénonciation d'un crime terroriste et coupant d'une année de prison, dont 4 mois fermes. Poursuivi dans la même affaire, un 4e français a lui été acquitté de l'ensemble des charges. Leurs identités ne sont pas dévoilées. Les peines prononcées ont toutes été purgées dans le cadre de la détention préventive et la Cour a décidé de l'éloignement de l'ensemble des accusés du territoire national, a indiqué l'agence marocaine de presse MAP citée par l'AFP. Les 4 personnes ont ainsi été expulsées ce matin du territoire marocain à destination de la France. Le Maroc et la France comptent chacun plus d'un millier de ressortissants dans les rangs d'organisations djihadistes comme le groupe État islamique. Rabat, qui ne cache pas son inquiétude face à ce phénomène, a complété l'an dernier sa législation pour renforcer sa lutte anti-djihadiste.
Au Yémen, les avions de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont pour la 2e journée consécutive bombardé des positions des Houthis. Ces opérations entrent dans le cadre d'un effort régional pour chasser ces rebelles chiites qui, ces derniers temps, se sont emparés d'une bonne partie du pays. Le copilote soupçonné d'avoir délibérément provoqué le crash dans les Alpes françaises et la mort de 150 personnes à bord de l'appareil de Germanwings aurait caché des preuves de sa maladie à son employeur, annoncent les procureurs allemands. Des formulaires d'arrêt maladie détaillés, déchirés et qui concernaient aussi le jour des faits ont été retrouvés chez Andreas Lubitz. Mais voilà, la nature de sa maladie n'a pas été précisée. Selon les médias, cependant, il souffrait de dépression. Désormais, les compagnies aériennes allemandes vont adopter la règle des 2 personnes en permanence dans le cockpit de leurs avions. Une règle en vigueur ici aux États-Unis. Pour rappel, le copilote avait empêché le pilote de regagner le cockpit après que ce dernier se soit absenté pendant quelques minutes. Les négociateurs américains et iraniens ont entamé un dernier round de pourparlers sur le nucléaire iranien alors qu'approche la date butoir du 31 mars pour la conclusion d'un accord cadre. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif se sont rencontrés aujourd'hui à Lausanne en Suisse. Hier, à l'issue de leurs entretiens, ils s'étaient déclarés optimistes. Monsieur Zarif a condamné les raids aériens saoudiens au Yémen, mais il a précisé qu'ils n'affecteront pas les négociations qui, a-t-il rappelé, sont axées sur le programme nucléaire de Téhéran. Le président syrien Bachar al-Assad se dit ouvert au dialogue avec les États-Unis, mais un dialogue fondé sur le respect mutuel. Dans une interview avec la chaîne de télévision américaine CBS, M. Assad a répondu à de récentes déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry, selon lesquelles les États-Unis devront éventuellement parler au président syrien, et cela pour aider à trouver une solution à la guerre civile en Syrie. La France va relancer les efforts pour faire voter au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution fixant les grandes lignes de règlement au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Paris va entamer des discussions à ce sujet avec ses partenaires dans les prochains jours, a précisé le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Monsieur Fabius a ajouté que la France a proposé en décembre un texte rappelant les paramètres internationaux d'un possible règlement israélo-palestinien, notamment la solution à 2 États, c'est-à-dire, bien entendu, la création d'un État palestinien.
Soyez au cœur de l'info.